Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, popophiles, popovores, popophages de tout poil, nous voici dans un nouvel épisode de notre podcast Pop en stock, dévolu à l'étude de la culture populaire contemporaine et tous ses ancêtres et archéologie, dans un nouveau format transatlantique qui nous permet aujourd'hui de nous déplacer en Belgique, où nous avons la grande chance de pouvoir parler avec les responsables d'une bibliothèque des littératures d'aventure, BILA, Stéphanie Balthazar, bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Stettenfeld, bonjour aussi.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être prêté donc à cet entretien. Votre bibliothèque se trouve à Beaufay.
À Beaufay.
Beaufay, ok.
Beaufay, voilà. Beaufay. Sur la commune de Chauffontaine, voilà, près, sur la province de Liège.
Ouais. Ok. D'où est venue l'idée fort intéressante de cette bibliothèque spécialisée donc dans les littératures de genre, malgré le titre qui est celui de littérature d'aventure, c'est aventure, fantastique, fantasy, policier, science-fiction, sentimental, donc tout ce qu'on appelait jadis les paralittératures et qu'on évoque maintenant plutôt sous le terme moins stigmatisé ou stigmatisant de littérature du genre. D'où est venue cette idée ?
Alors, elle date, cette idée, en fait, puisqu'elle date de la fin des années 70. Ça remonte déjà à une époque où on parlait peu des paralittératures, mais où, voilà, une conscience tout doucement émergeait, d'abord avec des passionnés, puis tout doucement quelques chercheurs qui étaient disséminés un peu aux quatre coins de l'Europe. Et donc, cette petite bibliothèque existait en tant que telle, comme une bibliothèque de quartier. Il y avait de tout dans cette petite bibliothèque et il y avait surtout un bibliothécaire qui très vite s'est intéressé au cinéma, aux littératures populaires, aussi aux curiosa, donc plutôt la littérature érotique. Et il a eu très tôt cette conscience en fait de l'intérêt des littératures populaires, mais aussi de leur lente chute vers un oubli assuré, voilà. Puisqu'on les lisait, on les consommait et puis comme c'était des fascicules populaires, pas nécessairement de très belle qualité, voilà. On les abandonnait très vite et surtout, il n'y avait quasiment pas de recherche universitaire sur ces sujets-là. Et donc, lui, voilà, il s'est rendu compte de tout cet intérêt. Et puis alors, il a vu que tout doucement, alors émergeaient voilà, des recherches voilà, par-ci, par-là sur toute l'Europe. Et il a emboîté le pas, en fait, à ses premiers chercheurs et à ses groupuscules de passionnés. Alors, il l'a fait de deux manières, en fait, puisqu'au départ, il a d'abord essayé de les conserver. Sauf que comme c'était une petite bibliothèque de quartier, bah, il n'avait pas beaucoup de budget pour ça. Donc, en fait, il était aux aguets. Et dès qu'une petite bibliothèque fermait, une bibliothèque paroissiale ou une bibliothèque de centre sportif ou d'école, eh bien, il se manifestait. Il disait, moi, si vous jetez, je veux bien reprendre. Et donc, il a commencé à amasser comme ça toutes sortes de bouquins, de fascicules, tout ce qu'il pensait être utile de conserver, il l'a fait. Alors, il les stockait où il pouvait, puisque bon, la bibliothèque était minuscule, donc il stockait chez lui, je pense, il stockait chez des amis dans des caves, dans des greniers, enfin bon, tout le monde était mis à contribution dans ses connaissances. Et donc, il a commencé par ça, donc il a amassé un fonds vraiment important. Alors, pas toujours de bonne qualité, puisque comme je vous le dis, c'était beaucoup de livres de bibliothèque, mais ça avait le mérite d'exister, d'être préservé quelque part. Et à côté de ça, alors, il a tout doucement aussi commencé à essayer de valoriser ce travail de conservation, et d'orchestrer un peu, d'animer, en fait, de jouer un peu un rôle d'animateur et de regrouper ces chercheurs qui étaient disparates, qui étaient souvent bien seuls, je pense, dans leur université à travailler là-dessus. Et lui, il s'est dit, pourquoi pas se réunir ? Et il a commencé donc à organiser les premiers colloques de paralittérature qui a réuni tous les grands noms de l'époque, hein, des années 80, 90, Charles Grivel, Jacques Goimard, Jacques Van Herpes, Jacques Dubois, Yves-Olivier Martin, Hélène Constant, enfin voilà, ils étaient tous de la partie, ils sont tous venus à Chauxfontaine participer à ces colloques. Alors le premier, il date de 1987, et alors très vite, alors il s'est dit qu'il y avait un intérêt aussi, et donc il est devenu directeur de collection pour une petite maison d'édition liégeoise, en fait, qui s'appelait les éditions du Céphale. Il était directeur de deux collections, d'abord une collection pour des actes de colloque, les cahiers des paralittératures.
Jean-Marie Gretson, non ?
Jean-Marie Gretson, tout à fait, oui. Et à côté de ça, il était directeur aussi d'une autre collection qui s'appelait Paralittérature, tout simplement, avec alors des textes de chercheurs, voilà.
Oui,
celui-ci, mais il y en a plusieurs.
Vous montrez justement l'aventure mystérieuse de Laurie Guillot, et un grand livre sur la question du tournant de la littérature d'aventure vers les aspects un peu plus fantastiques. Et donc, c'est vraiment un travail de passionné initialement, quelque chose qui a été fait un peu dans les marges des institutions et surtout grâce à ce travail qui est un peu presque celui d'un collectionneur, mais un collectionneur public, disons, dans une certaine, mesure. Et donc, le lien avec Jacques Dubois de l'Université de Liège, donc le célèbre auteur de l'Institution de la littérature, Introduction à une sociologie, il est venu plus tard, donc une fois qu'il avait déjà commencé ce travail.
Je suppose qu'ils se sont connus très tôt, et je pense que très tôt, Jacques Dubois a soutenu le projet de Jean-Marie Gretson et lui apportait voilà, son aide et peut-être l'aider aussi en matière de consultance pour trouver les interlocuteurs, les chercheurs. Voilà, je suppose qu'il devait beaucoup le seconder, en tout cas au départ de ce travail-là. Maintenant, ici, on a par exemple plein d'archives, je repensais l'autre jour, tout se faisait par courrier, évidemment. Donc, ça prenait des mois d'organisation d'un colloque. C'était un an et demi à l'avance, à mon avis, parce que tout se faisait par courrier. Donc, j'ai plein de lettres, en fait, de jeunes chercheurs qui, aujourd'hui, sont des chercheurs reconnus et qui écrivaient parce que, voilà, ils étaient intéressés de participer pour la première fois de leur vie à un colloque sur la littérature populaire. Enfin, c'est des plein de beaux souvenirs, en fait. Voilà.
Ah oui, ça ferait une belle publication d'ailleurs pour la bibliothèque, un peu le passé de cette passion. Donc le premier fonds, au fond, c'est celui de la bibliothèque municipale telle qu'elle était, j'imagine, plus donc toutes ces acquisitions au fur et à mesure de la fermeture d'autres bibliothèques. C'est ainsi que peu à peu s'est constitué peut-être quand même celui qui est le plus volumineux de la francophonie sur ces questions.
Oui, nous sommes peu, donc oui, en effet, et avec une telle ouverture au genre, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres institutions, hein, en France, pour la Bilipo par exemple, en Suisse aussi, avec la Maison de l'Ailleurs.
Oui, la Bilipo qui est consacrée aux littératures policières,
voilà.
Et la Maison de l'Ailleurs, plutôt la science-fiction, les utopies, etc.,
donc, c'est vrai que le corpus est vaste, et il a été redéfini, puisqu'en fait, en 2003, la bibliothèque a bénéficié de la première reconnaissance du service de la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'appelait à l'époque Communauté française. Suite à cette reconnaissance, il y a eu tout un travail de redéfinition des corpus, puisqu'on travaillait toujours sur une bibliothèque de quartier, donc il y avait encore de tout dans la bibliothèque, même si... Au fil des années, on était, voilà, le fonds s'était quand même déjà spécialisé et les acquisitions aussi, il restait quand même un peu de tout. Donc le fonds a été redéfini, on a choisi les genres de prédilection sur lesquels on allait travailler et que l'on allait conserver ici. Voilà, donc ça a été un long travail, ça a pris quand même quelques années. On a redéfini l'identité du centre aussi suite à cette reconnaissance. Puisqu'il s'appelait Centre des paralittératures, ça ne parlait plus à grand monde à ce moment-là, puisqu'on était à ce moment-là dans les années 2000, donc c'était un terme qui était plus très utilisé, qui était plutôt obsolète. Donc on a retravaillé sur l'identité du centre, sa visibilité, il y a eu tout un travail, en fait, et sur le fond et sur la forme et, voilà, que l'on voulait donner à cette institution.
Et vous-même, vous êtes arrivé, parce que Jean-Marie Gretson, il a quitté la bibliothèque quand ?
Dans les années, à mon avis, à 2008, 2010, par là. Donc, il a encore travaillé après. Donc, il a été... En fait, ce qu'il y a, c'est que Jean-Marie Gretson, au début, c'était, comme vous le disiez très justement, c'était un passionné. Et donc, il avait un autre job. Voilà, il était engagé à temps plein dans tout à fait une autre mission. Enfin, voilà. Mais la littérature, c'était sa passion. Et donc, il faisait ça après journée. Et il a fait ça pendant 30 ans après journée. Et puis, alors, quand il a enfin été pensionné, ben voilà, il est venu prester des heures ici, alors, pour continuer son travail. Et puis, il est définitivement parti aussi à la pension.
Quand est-ce que vous êtes arrivé?
Moi, je suis arrivée lors de la signature de la première convention en 2003. Il y a eu des subsides et donc il a pu engager, d'abord engager, je pense, à temps plein la bibliothécaire qui travaillait à ce moment-là à temps partiel. Et puis alors, on a pu engager aussi quelqu'un voilà, pour développer les nouvelles missions, puisque convention rime aussi avec de nouveaux objectifs, voilà, des missions à tenir. Il fallait bien être trois, puisqu'il y avait du pain sur la planche. Et donc, il y a eu tout ce travail de redéfinition du fond, de la visibilité, et puis des missions aussi qu'on nous a attribuées, puisque la lecture publique, en fait, en Belgique, c'est le service qui subsidie les bibliothèques publiques. Or, cette bibliothèque-ci, elle était un peu en marge. Voilà, certes, on ouvrait déjà aux lecteurs, comme toute bibliothèque publique, mais le fond était particulier. Et donc, très vite, en fait, les missions que l'on nous a données ont été bien plus vastes que d'être une simple bibliothèque de quartier ou de village, évidemment. Et il était donc question non seulement de conserver ces littératures, quelque part une fois en Belgique, ça n'existe qu'une fois et c'est ici, voilà. Et d'un autre côté, et ça, c'était très important pour le service de lecture publique et un service quand même de... Voilà, aux lecteurs, c'était de valoriser ces littératures de genre et de fournir ce travail de valorisation pour tout le public en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, en fait, on dépassait largement le cadre de la commune de Chauffontaine, en fait, par cette nouvelle mission. Alors, en n'étant que trois, c'était juste impossible. Donc, l'idée, très vite, en fait, ça a été de développer des outils, des services un peu clé sur porte, si on veut, et qui servait, qui était prêté directement à toutes les bibliothèques, centres culturels qui en faisaient la demande. Et donc là-bas, le service, une fois prêté, pouvait être utilisé. Alors, ce sont des expos, ce sont des colis de livres, des conférences clé sur porte, des choses comme ça, qui étaient exportables dans les bibliothèques de Belgique, facilement exportables et facilement exploitables pour les lecteurs de la bibliothèque emprunteuse des services. Voilà. Ça, c'est le travail qui nous est quotidien aujourd'hui, on va dire.
Wow, et pour les fonds, comment ça se passe maintenant pour les acquisitions? Vous essayez de compléter, par exemple, des anciennes collections, ou est-ce que c'est plutôt par rapport
Oui.
à une nouveauté?
Tout à fait. Donc, il y a deux volets. Donc, il y a le volet contemporain avec des achats tout à fait récents, des sorties littéraires. Alors qu'on essaie de compléter, puisque vous vous doutez bien que dans les bibliothèques publiques, il y a déjà du roman policier, de la
Ben oui.
science-fiction. Donc, on essaie voilà, d'apporter aussi une complémentarité par rapport à des best-sellers qu'on pourrait trouver en bibliothèque et plutôt voilà, faire des focus sur des éditeurs un peu plus confidentiels ou des auteurs moins connus, mais qui ont tout leur intérêt, voilà, sans doute aussi peut-être même bien plus. Donc, on essaie vraiment de compléter l'offre. Et à côté de ça, en effet, alors, il y a un peu de budget qui est consacré aux acquisitions d'anciens fonds. En général, soit c'est en fonction de nos activités. On travaille sur une thématique annuelle et donc on essaie du coup de compléter les fonds existants. Donc ça, c'est une manière de faire. Et puis alors, on fonctionne aussi à l'opportunité. Donc, il arrive que des chercheurs ou plutôt bien souvent des passionnés nous contactent et veulent se débarrasser de leurs fonds, d'une partie de leurs fonds. Enfin voilà, il y a des opportunités d'achat qui sont immanquables. Et alors, dans ce cas-là, on a par exemple, il y a quelques années, acheté... vraiment de très nombreux. On a quasi les collections complètes des Buffalo Bill et des Lord Lister chez Eichler. Bon, voilà, on n'en avait pas du tout. On s'est dit, quelle occasion. Voilà, le monsieur voulait vraiment se dessaisir de la totalité de cette
Wow.
collection, puisqu'il avait mis des dizaines d'années à
Bah
collecter
oui,
tout ça.
bien sûr.
Tout ça, évidemment, est toujours régi par les lois d'un service communal avec un petit marché, des choses comme ça, une réservation de crédit. Mais voilà, en général, la commune nous fait confiance et nous suit parce que, voilà, je pense que depuis le début, la commune de Chauffontaine soutient le projet et c'est très important pour nous aussi d'avoir ce double appui communal et Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est très précieux pour nous, évidemment.
Un grand spécialiste à la fois de la culture populaire et des nouvelles spiritualités, Massimo Introvigne, détient le fonds le plus important au monde de cette littérature de fascicules qui, pour l'instant, se trouve dans les fonds du CESPOC, le Centro de Studi sulla Popular Culture, Centre d'études de la culture populaire, qui est physiquement, disons, annexé ou intégré dans le CESNUR, le Centre des recherches sur les nouvelles religiosités. Et en fait, Massimo, il me faisait part de son envie de trouver une bibliothèque qui puisse s'occuper, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers de volumes. C'est vraiment comme les fascicules. Bon, évidemment, c'est pas non plus des, c'est pas exactement les mêmes volumes quand on pense aux volumes de livres, etc. Mais ça reste que c'est quand même quelque chose d'assez colossal. C'est dans plusieurs langues, donc beaucoup français, mais il y a aussi beaucoup en italien, il y a en anglais, etc. Et il s'inquiétait justement du fait que il y a tellement peu d'intérêt dans les institutions conventionnelles, disons, pour ces fonds-là. Ça nous a mené à une discussion que j'avais eue par ailleurs aussi avec d'autres chercheurs, et c'est la question de ce travail, de ce patrimoine paradoxal, parce qu'au fond, c'est le patrimoine le plus populaire de l'Europe, enfin, de chaque pays évidemment, mais ensuite aussi de l'Europe si on pense à l'échelle européenne, et puis plus largement, c'est le capital des cultures en général, c'est la culture populaire. Or, ce paradoxe, non, que c'est ce qui a été le plus populaire de l'histoire, et en même temps, c'est ce qui a été considéré comme étant quelque chose qui devenait obsolète à chaque nouvelle génération. On oubliait tout ce qui s'était passé pour la culture populaire précédente, et aussi le fait que beaucoup de ces ouvrages étaient eux-mêmes frappés d'une obsolescence programmée, dans le sens que la qualité du papier était très mauvaise, la qualité des illustrations aussi, etc., et qu'il y en a qui littéralement tombent en morceaux, comme c'est le cas des pulps qu'il faut vraiment garder dans des conditions très, très particulières. Alors, quelle est votre réflexion un peu sur ce… Parce que c'est vous qui finalement faites ce travail-là. On n'a pas l'impression qu'il y ait une volonté à l'échelle européenne, disons, de créer ce qui serait quand même quelque chose de formidable. Et puis, la Belgique serait tout à fait bien placée pour l'accueillir, une sorte de musée ou de bibliothèque de la culture populaire européenne.
Expliquer pourquoi, c'est difficile parce qu'il y a sûrement toutes sortes de raisons, mais c'est un fait. Effectivement, on voit bien que cette volonté n'existe pas. D'ailleurs, le fait que la villa soit un peu une exception comme ça dans le paysage francophone le prouve.
Et il a failli fermer d'ailleurs récemment en France, celle des bibliothèques policières. C'est
Oui,
ça.
tout à fait. L'avenir, effectivement, n'est pas tout à fait certain, apparemment, pour eux. Et on voit bien que, de toute façon, les initiatives, comme à la villa, d'ailleurs, sont souvent des initiatives de particuliers qui, quand elles ont de la chance, sont après soutenues par les pouvoirs publics, ce qui est le cas de la villa. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de travail institutionnel sur ces matières-là. Et encore pour l'instant, en France, hein, on discute avec des collectionneurs et des passionnés qui essayent de monter des centres de conservation, mais ce sont toujours des initiatives d'ASBL, des initiatives de passionnés qui essayent de convaincre les pouvoirs publics que c'est intéressant. Et ce n'est jamais d'initiative du pouvoir public. À la Bila, ici, on peut s'estimer vraiment très chanceux parce qu'on est reconnu depuis longtemps et on est vraiment soutenu hein, aujourd'hui par la commune et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est réellement, réellement soutenu. Il y a une vraie volonté du coup de reconnaître notre travail. Mais les raisons qui expliquent ça, bah, c'est sûrement encore une forme, je dirais pas trop de mépris, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de mépris pour ces matières-là, je ne sais pas, mais plus une méconnaissance qu'un mépris et surtout aussi peut-être une méconnaissance du caractère fragile, effectivement, de cette matière-là. Puisque, comme vous le dites, c'est souvent imprimé dans de très mauvaise qualité, et donc c'est très difficile de le conserver. Je pense que les gens ne sachant pas ce que c'est, ne savent pas spécialement qu'il y a un vrai travail de conservation nécessaire pour sauvegarder ces matières-là.
Et dans ce sens-là, le travail que vous faites aussi de mise en valeur est précieux, puisque c'est aussi une façon de sensibiliser les publics, mais aussi les pouvoirs publics, de l'importance de ces fonds. Donc, vous faites, comme vous le signaliez, à côté de tout ce travail de préservation, d'acquisition, etc., vous animez plusieurs volets très actif. Donc, quand on va sur votre site, donc on a d'un côté donc le catalogue, mais aussi donc tout un programme avec plusieurs activités. Alors là, on a donc par exemple en ce moment l'exposition virtuelle Bob Morane, donc grande figure de la culture pop belge et francophone. Ensuite, des rencontres virtuelles comme celle consacrée à Picsou, au professeur Moriarty par Xavier Momégian, qui est lui-même auteur d'une série d'œuvres assez cultes. Et vous offrez aussi donc des services itinérants où on retrouve un peu la liste de toutes les expositions et les podcasts des midis de l'imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça?
Oui, tout à fait. Bah donc, nous, notre convention, en fait, on a vraiment deux grandes missions. On peut séparer les missions en deux. On a une, donc, cette mission de conservation et l'autre mission, et qui est même celle qui importe le plus, en tout cas dans le chef de nos financiers, hein, c'est la mission de valorisation, justement, des littératures de genre, des littératures populaires. Donc, on a défini ensemble un contrat, une convention avec la Fédération Henri-Boussel où on liste une série de choses qu'on doit faire pour valoriser les littératures de genre. Et donc, on est tenu, plus particulièrement moi, justement, ici à la BIA, c'est ma mission, c'est de travailler à ces animations et à cette valorisation des littératures de genre. Et encore une fois, là, on peut s'estimer heureux parce qu'on a une grande liberté. Donc, là, c'est vrai que la Convention définit, par exemple, elle nous dit qu'on doit faire les midis de l'imaginaire, choses comme ça. Mais après, sur le contenu, on a une liberté totale. Et c'est vraiment nous qui décidons, en fonction des opportunités, de nos envies, ce que nous allons mettre en avant. Et donc, notre programmation, elle s'établit sur plusieurs points. Donc, des conférences qu'on fait en ligne maintenant. Et donc, ça s'ouvre justement, ça, c'est les rares bénéfices de la crise du Covid, c'est qu'on s'est lancé dans la numérisation. Et donc, on fait les conférences en ligne. Et ça, on le fera toujours à partir de maintenant. Et donc, on va essayer vraiment de maintenir ça. Donc, on fera des conférences en présentiel, mais on essaiera à chaque fois de les filmer pour les proposer en direct et en ligne pour, voilà, pour nos amis français et québécois, etc. Puisque, effectivement, nous, situés à Liège, petite ville de province en Belgique, c'est vrai que le public de ces littératures-là, il est dispersé partout en francophonie. Donc, c'est vraiment tout à fait pertinent qu'on passe par Internet pour tout ça. Donc, ça, c'est les activités, on va dire, grand public qui sont destinées directement à vos publics. Et puis après, nous, on a aussi une mission, donc on est en quelque sorte un opérateur d'appui pour les bibliothèques. Et donc, c'est ça, les services clés en main, les outils. Et donc, on crée des événements propres à valoriser les littératures de genre qu'on donne aux bibliothèques. Et puis, c'est elles, avec leur public, qui le valorisent. Ce sont les expositions. Souvent, on les fait quand même chez nous dans un moment, mais après, on les prête, les expositions, les colis de livres, etc., comme Stéphanie a listé tout à l'heure.
Donc, à ce moment-là, c'est des fonds que vous, un peu comme les musées et les expositions, vous prêtez vos fonds. Donc, ça prend la forme d'exposition où on voit les livres, mais j'imagine aussi des affiches, etc., non?
Oui, tout à fait. Quand on a les opportunités, voilà. Donc, nous, on fait des panneaux, des expositions panneaux qu'on a appris donc, avec des visuels et du contenu. Et puis après, on enrichit alors effectivement ces panneaux avec des livres. Ce sont des expositions de livres essentiellement chez nous, donc avec des affiches ou des livres que l'on a ou alors qu'on achète pour l'occasion, effectivement. Donc, voilà, ça dépend. Mais ça, c'est vraiment… On a une grande liberté. Donc, parfois, on part de notre fond en se disant « Oui, on a plein de choses là-dessus. On va faire une expo. » Ou alors on se dit, on a envie de parler de cet auteur-là, alors on achète en conséquence. On travaille avec des collectionneurs et des passionnés qui nous prêtent, notamment ici, on vient de faire une expo sur Bob Moran, donc l'exposition qui a été virtualisée, on va dire, est une exposition d'abord qu'on a fait chez nous, à la bibliothèque. Et là, on a eu l'aide d'un des plus gros collectionneurs de Bob Moran, qui était pas loin de chez nous, dans les Ardennes belges, qui avait environ 100 000 pièces liées à Henri Verne. Et notamment des manuscrits originaux, enfin, tous les produits dérivés, tous les livres dans toutes les éditions, dans toutes les langues qui existent. Enfin, il avait tout, à peu près tout. Et voilà, quelqu'un de très généreux et très sympa qui nous a prêté tout ce qu'on voulait. Et on a enrichi l'exposition grâce à ça. Voilà, donc on a vraiment un mode de fonctionnement. On a une vraie liberté, on va dire, dans cette organisation-là. On a vraiment les mains libres, donc on peut faire toutes sortes de choses et envisager toutes sortes de configurations, ce qui est vraiment une chance.
Oui, non, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas donc du tout cantonné à la culture populaire belge, en fait. Laurence Boudard, donc l'autrice d'un livre très sympa qui vient de sortir sur Martine, donc la célèbre collection, et qui, elle, s'occupe aux archives et musées de la littérature, donc aussi en Belgique. Et on parlait aussi de cette question de fonds et par rapport au patrimoine plus spécifiquement belge. Donc, on parlait du fait qu'effectivement, il y a le grand musée de la bande dessinée, donc où j'imagine tout ce qui est relatif à la bande dessinée belge, franco-belge, va sûrement là, être archivé. Mais ensuite, pour la culture populaire belge, est-ce que c'est vous qui archivez ou est-ce qu'il y a une autre institution belge qui s'occupe des fonds de genre, par exemple
nous, on archive en fait ici que les fictions et les études sur les genres. Mmh. Après, en effet, à Bruxelles, il y a Archives et Musées de la Littérature, AML, qui, eux, s'occupent des fonds des auteurs et des éditeurs belges. En fait. Donc, les archives, bah, j'en vais, par exemple, mais comme beaucoup d'autres, les archives d'auteurs belges, maintenant, se retrouvent là-bas, pour l'essentiel. Ce n'est pas le cas pour tous les fonds d'auteurs, mais la plupart se retrouvent là-bas. Et c'est bien que ça soit centralisé dans un endroit, comme c'est bien qu'ici, nous, on s'occupe de la fiction populaire. Voilà. La Belgique est un petit pays, donc on ne peut pas non plus démultiplier voilà, les lieux de conservation.
Finalement, votre mandat, il est plus à l'échelle de l'ensemble. Et c'est donc l'ensemble de la francophonie, ou est-ce que c'est aussi néerlandophone pour la culture populaire, ou est-ce que c'est aussi…
Nous, on dépend du… Oui. Du gouvernement francophone de Belgique. Hein. Donc, okay. Voilà, la partie qui s'occupe de la culture francophone. Mais nous, on n'a pas de. Donc, on garde essentiellement ce qui est en français, effectivement. Mais on n'a pas de limite comme les AML qui s'occupent effectivement de la littérature belge francophone. Nous, c'est la littérature des gens mondiale. Donc, effectivement, on n'est pas du tout cantonné à ce qui se fait en Belgique francophone, ni même en ce qui se fait en francophonie. C'est parce que pour toucher notre public ici, il parle essentiellement le français. Donc, on va travailler avec des traductions et tout ça, mais on garde aussi, on a aussi certains livres en anglais, et on n'est pas du tout cantonné. En prenant l'exemple d'Henri Verne, on pourrait avoir le doute, puisque lui, il est belge francophone, mais la grande expo qu'on avait fait avant Henri Verne, c'était une expo sur Lovecraft. Donc effectivement, nous, c'est les littératures de genre et les littératures populaires, quel que soit le pays et quelle que soit la langue.
C'est extraordinaire et c'est assez unique effectivement dans ce sens-là, ce rayonnement que vous faites aussi de mise en valeur donc de toutes ces œuvres passe aussi par des activités des fois académiques, non, si j'ai bien compris, des colloques que vous hébergez ou que vous organisez directement.
Bah ça c'était plus avant en fait, oui, avant quand Jean-Marie Gretson travaillait un peu sans aide publique, lui il aimait bien les colloques, il travaillait vraiment là-dessus, mais quand nous, on a rattaché le service de la lecture publique, ils ont défini nos missions qui étaient des missions vraiment de valorisation auprès du grand public et auprès du réseau des bibliothèques. Et donc, cet aspect universitaire, on l'a laissé tomber parce que, voilà, à la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne nous finançait pas pour ça, on va dire. Et donc, on s'est reconcentré sur d'autres missions liées à cette convention qu'on a signée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Oui, mais qui sont effectivement très importantes de sortir des cadres plus restreints, non, de l'académique. Et les podcasts, donc, des Midi de l'Imaginaire, c'est donc des cycles de conférences, justement, qui sont un peu à la croisée, non, ça ne prend plus la forme des académiques, des colloques, mais vous invitez quand même des figures qui parfois sont des écrivains et d'autres fois sont des spécialistes comme Dick Tomasovich qui, je vois, a présenté donc Spider-Man.
Oui, bah on s'appuie majoritairement sur des chercheurs, mais on va chercher des spécialistes au sens large du terme. Donc, bon exemple, c'est Xavier Mauméjean qui viendra dans le mois prochain. Lui, il est écrivain, mais il a aussi travaillé comme chercheur. Il a fait aussi de la recherche en littérature populaire. Il a notamment, enfin de la recherche au sens large, mais il a publié plusieurs livres sur... sur Sherlock Holmes, par exemple, donc il a aussi une expertise sur ces matières-là. Oui. Et donc, on ouvre à tout ça. Et l'idée, effectivement, c'est de prendre des personnages de la littérature populaire, de la culture populaire, on va dire plutôt, et de les aborder, mais sous un angle un peu, voilà, un peu savant quand même, hein, un angle intéressant, mais en essayant que ça reste grand public, accessible au grand public. Donc, c'est vrai que ça fait je ne sais plus combien d'années qu'on fait, une dizaine d'années, hein, je pense.
On est à la 10e saison.
Et là, voilà, ils sont en ligne de ce que oui, je vois. Donc sur...
La responsabilité a été enregistrée et puis on les a transformés en podcasts qui sont accessibles effectivement en ligne rapidement et on continue à le faire. Donc celui de demain, on va rapidement le transformer et il sera donc celui sur Picsou qui est assuré par Nicolas Telop. Ce sera aussi accessible sur notre site assez rapidement.
Excellent. Est-ce qu'il y a une sorte de newsletter associée à ça?
Oui, tout à fait. Sur notre site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter.
Ah, ben. Bah... Et évidemment, j'invite aussi nos auditeurs et auditrices. Donc, vous avez Arsène Lupin, Barbarella, Batman, Blake et Mortimer, Bridget Jones, Buffalo Bill, Candyman, Dark Vader, David Bowie. Enfin, tous des thèmes extrêmement intéressants. Il y en a énormément et c'est tout à fait quelque chose à écouter. Effectivement, grâce à la numérisation, etc., c'est la possibilité de pouvoir bénéficier de toutes ces activités que vous organisez. Et quels sont un peu vos plans donc, pour le futur immédiat de l'institution donc, par rapport, déjà, vous avez beaucoup de pain sur la planche avec toutes ces activités. Est-ce qu'il y a eu des expositions qui s'en viennent?
Oui, tout à fait. Oui. Donc, une année sur deux, en fait, on organise un festival, le Festival des littératures d'aventure, qui met à l'honneur donc, les littératures de genre dans les bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, en fait, c'est un festival en fait, toutes les bibliothèques en Belgique sont invitées à participer, à proposer une ou plusieurs animations sur le thème choisi. Donc, tous les deux ans, c'est un thème différent. Cette année, c'est le roman policier. Ça se passe toujours à l'automne. Voilà. Et donc, ça, c'est l'événement phare. Hein. Tous les deux ans, c'est un événement qui nous occupe de nombreux mois, puisque nous, on travaille en fait avec ces bibliothèques partenaires, on les soutient au niveau de la communication. Et on leur apporte aussi des services, on essaie aussi de mettre à disposition pas mal d'outils supplémentaires qui peuvent leur permettre de proposer des animations dans leur bibliothèque. Donc ça, c'est l'événement important de l'automne. On espère vraiment que tout ça pourra avoir lieu, enfin, oui.
Et donc, j'imagine que vous invitez des auteurs, etc., etc.
Oui, donc on propose toute une série d'auteurs en fait, qui peuvent faire des animations en bibliothèque, qui sont d'accord de circuler en bibliothèque pour faire une animation des lectures, ce que la bibliothèque souhaite organiser pour son public. Donc en effet, il y a des sélections d'auteurs, d'illustrateurs qui sont proposées à nos partenaires, mais aussi des animateurs, puisqu'ici particulièrement pour le roman policier, je pense que certaines bibliothèques auront envie d'organiser une murder party par exemple. Donc, on va aussi trouver des animateurs qui peuvent proposer ça. On a même peut-être l'envie d'en organiser une nous-mêmes et puis de la proposer en itinérance. On verra bien. On va essayer de se lancer là-dedans. Voilà, donc c'est des petits projets qu'on leur propose aussi, que les supportent. Puis, il y a aussi des bibliothèques qui font une programmation elles-mêmes. Hein. Tout le monde n'a pas besoin, évidemment, des services que l'on propose. Mais en tout cas, tout ça est fourni gratuitement, évidemment, comme support de travail en fait, pour ce festival. Donc, ça, c'est le gros événement, je pense. De l'année. On peut peut-être aussi parler de ce projet de faire venir cette année l'exposition, donc dans le cadre de ce festival, faire venir la magnifique exposition que nous avons eu la chance de visiter quand même l'année dernière, In Extremis, qui se déroulait à la Bilipo sur l'Europe du polar. Très chouette exposition dont Mathieu Le Tourneux est un des commissaires. Et donc, voilà, le projet est de faire venir cette exposition dans le cadre du festival, de la proposer vraisemblablement sur Bruxelles. Donc, on essaie de faire écho de différentes manières donc, à ce festival. Et surtout que ce festival rayonne aux quatre coins de la Belgique. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Voilà. Qu'un maximum de public soit touché et puisse bénéficier des activités de ce festival. Ouais.
C'est super. Et par rapport au fonds, quand vous décidez de mettre en valeur donc une partie de votre fonds, parce que j'imagine que ça doit être assez immense, et est-ce que vous avez des coups de cœur par rapport au catalogue, de choses que vous avez que vous aimez particulièrement et que vous trouvez originales dans votre catalogue?
Oui, en plus, on a tous nos marottes ici, on a tous nos petits goûts, nos petits coups de cœur. On a des projets et puis des choses qu'on aime mettre en valeur, c'est certain. Moi, j'aime particulièrement les anciennes collections, les anciens fascicules populaires. Et notre rêve, évidemment, un jour, ce serait de développer et de pouvoir acquérir davantage de fascicules. Type par exemple les collections Ferenczi, moi je suis super fan de cet éditeur. Voilà, je trouve qu'il a fait tellement de collections intéressantes. Par exemple, une expo sur Ferenczi, c'est un rêve. Voilà, dans les coups de cœur anciens à fond.
La grande époque d'ailleurs, très pan-européenne, parce que ça allait de la France à l'Italie, l'Espagne, etc. Beaucoup de ces figures-là circulaient. Et c'est vrai qu'elles ont été un peu éclipsées par plus les formes du XXe siècle qui sont celles dont on garde plus mémoire. Et c'est vrai que ce qui vient juste avant et qui se prolonge un peu jusqu'aux années 1910-1920 et est resté beaucoup moins. Donc Nick Carter, toutes ces choses-là sont restées moins réactualisées. C'est un domaine incroyable. D'ailleurs, Mathieu Le Tourneux était aussi, lui, collectionneur. Quand il faisait sa thèse, il nous parlait de ça. Et effectivement, lui aussi, il a accumulé une quantité assez considérable de ces œuvres-là. Donc, de ce qui reste de la première époque, donc des premières moissons, disons, de Jean-Marie Gretson, vous disiez il y avait les curiosa, donc la littérature érotique. Est-ce que ça a continué?
Alors ça, nous, on a continué jusqu'à la réorganisation du fonds ici, donc sur les cinq genres. En fait, donc aujourd'hui, on travaille sur le roman policier, la science-fiction, le fantastique, l'aventure et le sentimental. Et donc, du coup, tout ce qui était curiosa, qui était déjà quand même un beau fond aussi, a fait l'objet, en fait, d'un échange avec la réserve précieuse de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Donc, le fonds curiosa est parti là-bas. Et en échange, si on veut, en quelque sorte, ils nous ont réorienté leur fonds de romans sentimentaux, voilà, pour compléter, nous, notre collection. Voilà ce qui s'est passé. Comme je vous le disais, c'est un petit pays, et donc c'est vrai que c'est un peu absurde, en fait, que plusieurs institutions gardent les mêmes choses. Je crois qu'on est vraiment dans une recentralisation et des plans de conservation partagés des documents. Et dans ce sens-là, ça avait évidemment, ça faisait sens, nous, de récupérer ici le sentimental et de leur donner ce fonds qui possédait déjà pas mal d'ouvrages aussi. Voilà, il y a aussi tout un travail, en fait, avec la réserve précieuse, la réserve centrale de l'OB, qui est précieuse, ça, qui ne porte pas ça dans son nom, la réserve centrale de l'OB, qui est l'endroit où on conserve aussi les livres, les élagages des bibliothèques, en fait, se retrouvent là-bas. Donc, c'est un fonds énorme aussi. Et avec eux aussi, donc, il y a tout un travail de réflexion, en fait, pour conserver ces littératures de manière équitable et juste. Voilà.
Oui, et d'autant plus que c'est vraiment sous la forme de la collection qu'elles font sens, parce que ça n'a pas grand sens quand on voit une œuvre isolée de ces corpus. Bon, il y a vraiment presque aucune chance qu'un lecteur contemporain s'y intéresse en tant que tel. Mais par contre, dès qu'il y a une collection, il y a la possibilité effectivement de déjà d'avoir des gens intéressés par les collections, les genres, et venir fouiller et passer du temps. Donc, vos fonds sont en consultation libre?
Tout à fait. Donc, en fait, ça reste une bibliothèque publique, ouverte à tous. Et donc, ça, c'est vraiment un souhait. Je crois que c'était déjà la volonté de M. Gretson. C'est un homme qui adorait partager, en fait. Voilà, qui adorait l'échange, le partage des informations. Il était très généreux comme ça dans sa façon de conserver les livres. Et donc ça est resté, puisqu'aujourd'hui, on est bel et bien subsidié par la lecture publique qui demande que les livres soient en effet continuent à circuler. C'est très important. Donc, nous gardons, on essaye, en tout cas, autant que faire se peut, de garder deux exemplaires de chaque titre. Un exemplaire qui se trouve en rayon et qui peut être emprunté, ou quand ils sont plus anciens, au moins consultés sur place, mais la plupart des choses peuvent encore sortir de ce qui est en rayon. Et alors, on a une réserve avec le second exemplaire, alors qui est vraiment, lui, destiné à la conservation. Voilà. C'est un double travail important.
On disait qu'il y en a beaucoup qui sont fragiles, les plus anciens, mais des fois aussi, pas nécessairement une question de date, des fois, c'est vraiment les qualités des... Donc, vous devez accueillir beaucoup de chercheurs de partout qui s'intéressent à ces fonds, j'imagine.
En accueille, mais pas assez à notre goût. On aimerait qu'ils viennent plus nombreux.
Ça donne envie, d'aller. C'est sûr que de toute façon, la Belgique est une grande destination pour les grands amateurs de culture populaire avec ses différentes grandes figures et en passant donc par le musée de la bande dessinée, etc. À un moment donné, vous vous appeliez d'ailleurs le centre Stiman, du nom du grand écrivain de romans policiers belge. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est Jean-Marie Gretson qui avait voulu rendre hommage à Stiman. Ou est-ce que c'est les fonds de Stiman que vous aviez à un moment où...
Il y avait le projet de rendre hommage à ce deuxième grand auteur de romans policiers en Belgique, certain, Stanislas André Stiman. Parce que le fonds Simonon existait déjà, en fait, aussi sur Liège. Et donc voilà, l'idée, c'était aussi de rendre hommage à ce deuxième grand auteur qui non seulement a été auteur, mais a aussi été éditeur pendant la Deuxième Guerre mondiale. et qui a produit des collections vraiment intéressantes, qui a lancé des carrières aussi en Belgique. Enfin, voilà, c'est vraiment un maillon important de notre histoire littéraire aussi populaire. Et alors, c'est vrai que M. Gretton était en contact avec le fils de Stanislas André Stéman, qui était Stéphane Stéman. Et il était question à un moment donné, mais c'est intéressant parce que du coup, on va rebondir sur quelque chose qui a été dit avant. Il était question que Stéphane Stéman dépose ici les archives de son papa. Et puis, avec le temps, en fait, et le développement aussi des AML, eh bien, il était plus justifié que les archives, c'est-à-dire les lettres, la correspondance qu'il avait avec d'autres auteurs, mais aussi les contrats d'éditeurs qu'il avait pu signer, enfin vraiment toutes ces archives en tant qu'auteur et éditeur, aillent aux AML, ce qui est arrivé. Donc nous, on a toujours gardé le patronyme Stéman ici à la bibliothèque parce que bon, voilà, c'est un auteur coup de cœur pour nous, mais les archives de Stanislas André Stéman sont bel et bien aux AML aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi aussi, donc, on a bel et bien gardé le patronyme, mais c'est vrai qu'on a changé de nom, donc on a aussi changé le terme paralittérature à une époque parce qu'il ne parlait plus aux gens. En fait, mon para, déjà, le terme para, c'est toujours ambigu. Combien de fois est-ce que des gens ne sont pas entrés dans la bibliothèque pour nous demander si on faisait du paranormal, des choses comme ça. Non. Donc, ce n'était pas clair. Enfin, voilà, en tout cas, ça suscitait l'ambiguïté. Donc, on a revu un peu le nom parce que voilà, on est intégré au service de la lecture publique et il était important que ce nom soit accrocheur aussi et soit aussi en phase avec la réalité. Et finalement, le roman d'aventure, on a trouvé que c'était super. Les littératures de l'imaginaire, on aimait bien aussi, Bibliothèque des littératures de l'imaginaire, on y avait pensé, mais c'était un peu trop réducteur par rapport au fond qu'on nous demandait sur lequel on nous demandait de travailler. Et donc, du coup, on a pensé à la littérature d'aventure parce qu'à l'origine, c'était bien ça. On avait dans les romans feuilletons, c'était l'aventure. Et se trouvaient dans ces romans feuilletons d'aventure tous les ingrédients des genres que l'on a aujourd'hui, qui sont devenus le roman sentimental, on parle encore d'aventure sentimentale d'ailleurs. De même pour le roman policier, on ne parlait pas de roman policier au début, ouais. On parlait de roman d'aventure policière. Ouais. Et donc, tous ces ingrédients qui font aujourd'hui l'arborescence de notre institution se retrouvent dans ce terme aventure qui était finalement assez historiquement juste. Et qui restait quand même un terme qui pouvait être accrocheur pour le grand public. Voilà un peu l'histoire du nom, du changement de nom.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que je donne souvent le cours du roman d'aventure, qui maintenant est devenu fiction d'aventure. Et justement, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça a été le genre principal d'où sont dérivés un peu tous les autres. C'est vraiment une très, très chouette de découvrir cette institution donc avec vous. On a tellement parlé d'Europe, on a tellement créé des choses autour de l'Europe et tout ça, alors qu'au fond, du point de vue culturel, ce qui a le plus uni les Européens, ce sont justement ces littératures populaires et ce sont ces figures-là qui ont été traduites, etc., et qui ont été appropriées. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas juste comme le fait que des grands auteurs soient lus dans des pays, etc., c'est que ce sont des héros qui sont devenus, dans chaque pays, des piliers, disons, de l'imaginaire des gens. Et ça, c'est quand même assez, assez incroyable. Et en tout cas, moi, je vote pour la Belgique comme centre, parce qu'on fait toujours Belgique pour une raison un peu géographique, géopolitique, etc. Mais là, je pense qu'en plus, il y aurait une vraie raison, dans le sens que c'est vrai que l'histoire de la Belgique est extraordinaire par rapport à sa contribution à la culture populaire et à l'imaginaire. Merci et merci énormément. Bonne continuation. Bonne chance avec le prochain festival.